Cours de métaphysique par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 9 octobre 89.
La métaphysique va vous réchauffer. Nous avions commencé la dernière fois à nous poser le problème, qu'est-ce que c'est que la philosophie première ? Comparativement à toutes les autres parties de la philosophie. Alors, la philosophie première peut s'opposer à la fois au terme de toute l'enquête philosophique, en voyant qu'il y a quelque chose de fondamental et de commun à toutes nos expériences. Ce fameux jugement d'existence. Ceci est, il faut le découvrir, hein, chacun d'entre nous. Analysez n'importe quelle expérience et vous verrez, expérience interne comme expérience externe, le jugement d'existence existe. Ceci est, mais la différence du jugement de l'expérience externe, c'est que le ceci est prend une objectivité beaucoup plus grande. Quand vous dites j'aime, ben ça existe, c'est vous qui existez. L'amour existe en fonction de vous. Tandis que quand vous dites ceci est, en regardant un caillou, le caillou existe indépendamment de vous. Il faut bien sentir ces deux aspects dans l'expérience interne et l'expérience externe, pas les séparer, les distinguer. Parce que toute expérience externe implique quelque chose de subjectif. Et toute expérience interne implique quelque chose d'objectif. Et donc, il faut surtout comprendre que ce qui permet à l'expérience d'exister, à la différence du rêve. Tous les matins, faites cette expérience. Vous vous réveillez en plein rêve et vous dites, ah, c'est l'heure. Vous dites c'est l'heure, jugement d'existence. Tandis que quand vous étiez dans le rêve, vous étiez complètement perdu. Vous ne saviez pas trop où vous étiez. Et quelquefois, ça continue toute la journée. Alors à ce moment-là, il faut faire attention. Le jugement d'existence est donc au cœur de toutes les expériences. On m'a demandé si c'est juste dire que le jugement d'existence est source. Vous voyez, c'est très délicat. Je dirais, il est au cœur. Il est ce par quoi toute expérience existe. Donc, condition sine qua non, plus. Source, pas séparée, immanente à toutes mes expériences. Parce que c'est l'intelligence qui permet de dire qu'il y a une expérience. Un animal ne fait pas d'expérience. Il broute. Et brouter n'est pas une expérience pour l'animal. Il ne réfléchit pas sur son expérience. Donc au sens strict, ce n'est pas une expérience. C'est l'homme qui fait l'expérience. L'homme est capable, c'est le propre de l'homme d'expérimenter. C'est le propre de l'homme d'avoir une expérience. Donc, au terme de toutes mes expériences, de toutes mes parties de la philosophie, je vois qu'il y a quelque chose de premier, de fondamental, que j'explicite par le jugement d'existence. Je peux encore entrer en philosophie première en tant que je suis croyant, puisque nous le sommes. difficile de dire ça à la Sorbonne, mais on devrait quand même le dire. En tant que croyant et catholique, je suis catholique. Je sais, dans ma foi, que mon intelligence est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Toute la tradition le dit. Tous les pères de l'Église, il n'y en a qu'un, je crois. Tous les grands théologiens, jusqu'à Luther. Luther est le premier qui affirme avec force l'intelligence humaine ne peut pas atteindre l'existence de Dieu. Elle est corrompue. Je ne peux atteindre l'existence de Dieu que par la foi. L'Église a condamné cette position. Elle dit que celui qui prétend que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre l'existence de Dieu, ce n'est pas juste. Celui qui prétend que seule la foi me permet d'affirmer l'existence de Dieu, ce n'est pas juste. C'est la position qu'on appelle le fidéisme. L'expression est consacrée. Compreniez. Le fidéisme, c'est justement la position de ceux qui prétendent que seule l'intelligence humaine peut affirmer l'existence de Dieu. Que seule la foi peut affirmer l'existence de Dieu. Et que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre l'existence de Dieu. Depuis Luther, l'Église n'a cessé de répéter jusqu'à Vatican I. Ou alors elle l'a affirmé d'une manière très très forte. Donc pour nous, en tant que catholiques, c'est net. Même si des quantités de théologiens aujourd'hui disent « Oui, oui, c'est une affirmation de droit, mais pas de fait. » C'est la position d'une quantité de théologiens aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont jamais fait cette expérience. Alors c'est possible que vous dites « Oui, je crois, parce que l'Église me le dit, mais je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. » Petit à petit, j'espère que vous verrez. Ça met du temps. Pas croire que du jour au lendemain, en se levant, on dit « Ceci existe, donc Dieu existe. » Vous voyez, toute la marge qu'il faut voir entre l'affirmation « ceci est » Dieu existe. Il y a une distance entre ces deux affirmations. L'affirmation fondamentale, première de mon intelligence, l'affirmation ultime de mon intelligence. Et entre deux, l'affirmation « je suis ». C'est entre les deux. Il faut bien comprendre le caractère différent de ces trois affirmations. Voyez, pour le catholique, il est nécessaire de se poser la question « Comment puis-je, par ma propre intelligence, découvrir l'existence de Dieu ?» Puisque l'Église me le demande. Donc je n'ai pas le droit de dire « ça ne m'intéresse pas ». Je n'ai pas le droit. On est un mauvais catholique si on dit ça. Même si un théologien vous dit « ça ne m'intéresse pas », vous êtes un mauvais catholique, monsieur. Puisque l'Église nous le demande, donc, on doit le faire. On n'y arrivera pas, mais on doit tenter. Or, si je réfléchis, je vois que la seule voie, je ne vais pas vous donner la démonstration ici, hein, la seule voie par laquelle mon intelligence peut remonter jusqu'à Dieu, c'est la découverte de ce qui est en tant qu'être. C'est la seule voie. Je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu par le point de vue de la vie. Je vis, donc Dieu existe. C'est sûr. Je vis, donc j'existe, donc Dieu existe. Mais vous passez par l'être. Parce que l'expérience que vous avez de votre vie demeure dans la pure immanence. Et donc, ça demeure dans la pure immanence. Impossible par l'immanence de découvrir Dieu. Ça, c'est très important à bien comprendre pour me mettre vraiment en présence de l'importance de la philosophie première. Oui, c'est tout à fait différent comme raison, hein. La première est vraie pour tout homme qui pense. La seconde raison est vraie pour tout catholique qui veut être pleinement catholique. C'est-à-dire qu'il ne refuse rien a priori de ce que l'Église affirme. Être vraiment catholique, c'est ça. C'est pas dans le credo. Dans le credo, il n'est pas dit « Je crois que mon intelligence est capable d'atteindre l'existence de Dieu. » Mais l'Église demandait avant à tout théologien, à tout philosophe qui enseignait avec la missio canonica, c'est-à-dire être envoyé par l'Église pour enseigner, de prononcer dans les mains de son supérieur le serment antimoderniste, c'est-à-dire reconnaître qu'on croyait cette affirmation d'Église, que notre intelligence était capable d'atteindre l'existence de Dieu. L'Église l'a supprimé et l'Église l'a repris. Maintenant, elle demande que tous ceux qui enseignent reconnaissent pleinement tout ce que l'Église enseigne. C'est élémentaire. Oui. Si l'Église vous donne une mission d'enseigner, ben, c'est parce que elle reconnaît que vous êtes entièrement en harmonie avec ce qu'elle enseigne. Autrement, vous continuerez de propager un venin au nom de l'Église. Ça ne va pas du tout. L'Église n'accepte pas ça. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est la seconde raison pour nous. Elle est importante parce que quand vous dites pourquoi la métaphysique, pourquoi la philosophie première? Vous pouvez tout de suite dire, en tant que croyant, je dois la faire. J'ai la lumière de Dieu pour la faire. Parce que vous le faites dans l'obéissance. Donc j'ai la lumière de Dieu. Je ne vois pas pour le moment, mais je sais que je verrai. J'en suis certain, j'ai l'espérance. Puisque je le fais dans l'obéissance. On comprend aussi des attaques très perfides du démon pour écarter cela complètement. Donc, depuis Luther. Voyez, si, quand l'Église chasse le démon de sa maison, il est dit qu'il revient ensuite sept fois plus fort. Et je crois que nous assistons à cela aujourd'hui. Le démon revient sept fois plus fort et donc le démon, d'une manière très nette, veut que notre intelligence se dise incapable de remonter jusqu'à Dieu. Troisième raison, nous voulons avoir saint Thomas comme maître. Nous nous mettons à l'école de saint Thomas. Saint Thomas, explicitement, au début de la somme, question 2, montre comment l'exister de Dieu n'est pas évident pour mon intelligence. Je n'ai pas l'intuition et l'évidence que Dieu existe. C'est très important, ça. Ce qui montre que il peut y avoir des athées de bonne foi. De bonne foi, comprenons bien. Ça, c'est l'équivoque terrible. De bonne foi, c'est-à-dire sincère. Le démon plaide la sincérité. Le démon est sincère. Et ce n'est pas dans la vérité. Les athées peuvent être sincères, ils ne sont pas dans la vérité. Rostand disait à la fin de sa vie que c'était dans son salon à Paris, le dimanche, qu'on parlait le plus de Dieu. Et Rostand disait, je n'arrive pas à découvrir par mon intelligence que Dieu existe. Je crois que ça provient de ma première enfance. Je suis né dans un milieu scientiste qui refusait Dieu. Il doit y avoir là un pli très profond qui fait qu'il y a un obstacle, une impossibilité pour moi d'affirmer l'existence de Dieu. Mais c'est très honnête, ça. Ça ne donne pas la solution, mais ça montre l'honnêteté. Parce qu'il disait, je voudrais bien que tu existes. Alors, si nous sommes disciples de saint Thomas, si nous voulons l'être, en entrant dans la communauté, on veut être disciple de saint Thomas. Et on veut aller jusqu'au bout. Être disciple de manière intelligente. Pas entrer par une porte sournoise de la scolastique décadente, mais entrer par la porte dorée, celle réservée à Jésus. Alors, on entre par cette porte, les enfants de Dieu. On essaie de découvrir saint Thomas de l'intérieur. Intus legere, pour saint Thomas. Lire de l'intérieur saint Thomas. Voir comment les problèmes se sont posés pour lui. Bien, saint Thomas affirme, Dieu n'est pas évident pour mon intelligence. Article suivant, Dieu peut être démontré, non pas d'une démonstration parfaite, a priori, mais d'une démonstration imparfaite, a posteriori. Distinction prise à Aristote. La distinction a priori, c'est lorsque à partir des principes, nous concluons une propriété. C'est la démonstration mathématique. Modo geometrico. On démontre par les définitions. Et les démonstrations a posteriori, c'est à partir des effets. À partir de l'existence de moi-même. Et des réalités. Du fait même que j'existe, Dieu existe. Oui, c'est ça la démonstration a posteriori. Du fait même que j'existe, Dieu existe. Pourquoi ? Parce que mon exister, c'est mon acte qui ne dépend pas de moi. Je n'ai pas été cause de mon exister. Ni vous non plus. Votre exister vous dépasse. La preuve, c'est que vous pouvez le reconnaître chez votre voisin. Vous lui donnez la main. Vous lui dites, tu existes. Le baiser de paix. Tu existes. Je te donne la main. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui dépend de moi. L'existence de mon voisin ne dépend pas de moi. Parce que s'il dépendait de moi, il aurait été autrement. C'est bien évident. Donc il ne dépend pas de moi. Si l'exister ne dépend pas de moi, n'est pas causé par moi, et qu'il est limité, il dépend d'un autre. Cet autre, il faut chercher. Est-il ce que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur? Et progressivement, on découvre que l'intelligence humaine peut, par cinq voies, c'est-à-dire par la causalité, remonter jusqu'à l'existence de Dieu. Mais je crois que ce problème de l'existence de Dieu a commandé non seulement toute la théologie, mais a commandé tout l'effort de philosophie de notre monde d'Occident, l'Europe et l'Amérique. Ce serait très intéressant à montrer ça. Mais j'en suis persuadé. Oui, à la différence de la Grèce. C'est là la très grosse différence de la philosophie telle qu'elle se développe en Grèce et la philosophie telle qu'elle se développe en Occident. Ou telle qu'elle se développe dans l'Inde. Notre Occident est marqué par l'évangélisation du Christ et des apôtres. Et le refus de l'évangélisation va amener le refus de l'existence de Dieu. Et nous nous plaçons, nous, après ces grandes affirmations de la non-existence de Dieu. Après Hegel, qui était source de ça. Et nous devons essayer de redécouvrir ce qui était comme perdu. Comment l'homme peut, par lui-même, en faisant appel à ce qu'il a de plus spirituel en lui, son intelligence et son cœur, découvrir la nécessité absolue d'affirmer l'existence de Dieu. Je n'insiste pas plus, hein, mais pour nous, en tant que disciples de saint Thomas, troisième exigence, vous ne pouvez rien comprendre à la somme si vous n'essayez de découvrir ce qu'est la philosophie première. Donc vous ne pouvez pas lire saint Thomas. Ceux qui prétendent lire saint Thomas sans avoir fait de philosophie première comprennent saint Thomas en fidéiste, ce qui est absolument contraire à saint Thomas. Parce qu'ils comprennent saint Thomas en tant que croyant. Or, il faut comprendre saint Thomas en tant que croyant et en tant comme intelligent. Sa somme est donnée aux croyants et aux hommes intelligents. Tu vois, aux hommes qui désirent être intelligents, qui cherchent à être intelligents. Donc, rappelez-vous toujours ces trois raisons. C'est très important. Pour vous, vous voyez, quand vous êtes un peu fatigué de faire de la métaphysique, ce qui est normal, quand vous dites « j'y comprends rien », ne vous inquiétez pas. Pendant un an, vous serez dans le tunnel. Un an. Alors prenez des piles suffisantes pour vous éclairer un tout petit peu. Hein. Des lampes de poche. Suffisamment. Pendant un an, vous n'y comprendrez rien. C'est le noviciat de l'intelligence. Et un très bon noviciat. Alors, vous essaierez, en faisant la philosophie, de comprendre l'éthique, de comprendre la philosophie de l'art, la philosophie du vivant, c'est plus facile. Mais il y aura toujours cet effort, revenir à la philosophie première. Bon, alors, maintenant je continue. Premier problème de la philosophie première. C'est l'entrée dans la philosophie première. Je cherche. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est ça. Le réservoir des serviettes. Ceci est... Bon. Je découvre ça à partir d'une expérience. Cette table existe. Ou cette table est blanche. Jusqu'à nouvel ordre. Je pars d'une expérience. Je vous dis bonjour. Je vous serre la main. Ceci est. Mon frère existe. Il est là à côté de moi. Ceci est. Bon. Je laisse l'expérience. Je laisse tomber l'expérience. Et je ne regarde plus que ceci est. Ce n'est pas une abstraction. C'est une séparation. Je ne m'intéresse plus à la table. Elle est présente dans le ceci. Et je peux, comme je vous disais la dernière fois, ou mettre l'accent sur « est » ou mettre l'accent sur le ceci. Mais comme j'abandonne la table, je mets l'accent sur « est ». Et si je multiplie les expériences, chaque fois, je redécouvre, à partir du ceci, que le ceci existe. La table, le frère, la vache. Exprès, hein, pour ne jamais confondre. Alors, pour bien déterminer les différents aspects. Et toujours est. C'est ce que Raïssa appelle l'intuition de l'être. Il faut savoir ça. Parce que dès que vous rencontrerez un thomiste, il vous dira « Ah oui, vous avez l'intuition de l'être. » Il vous dirait « Non. » Alors vous lui ferez de la peine. Il ne faut pas dire l'intuition de l'être. Raïssa a eu l'intuition de l'être parce qu'elle a dit « Il faut mettre « Je suis ». Raïssa existe. Le petit chat existe. Là, c'est la vache. Le petit chat existe. Donc, l'exister a une relation avec moi, avec le petit chat, avec la table. Une relation différente. Et cependant, il y a quelque chose de commun qui est exprimé par le fait d'exister. La table existe, le petit chat existe, j'existe. Oui, c'est bien ça l'intuition. Découvrir quelque chose de commun à l'intérieur de diverses relations. Alors je mets en lumière ce quelque chose de commun. Il y a une harmonie. Plus qu'une harmonie, il y a quelque chose de fondamental. Donc, c'est pas l'intuition de l'être, c'est saisir l'unité de relation ou l'unité de quelque chose dans la diversité des relations. Bon, il faut le savoir, c'est pour ça que je vous le dis. Parce que quand vous lirez le Maritain, cette leçon sur l'être, ne lisez pas ça tout de suite. Pas en première année, parce que ça vous embrouillera. En seconde année, c'est pas mauvais du tout. Cette leçon sur l'être de Maritain. Et le courage de faire cette leçon sur l'être. Et de les écrire. Il faut l'avoir lu, ça. Parce que Maritain fait partie des thomistes. Alors si vous avez le temps, c'est pas urgent, il y a des choses plus importantes. Mais si vous avez le temps, livre de chevet, le soir, avant de vous endormir, n'est-ce pas ? 7 leçons sur l'être. Bon, je laisse Maritain de côté et je dis ceci. Et je regarde maintenant Heidegger, puisque c'est quand même le philosophe le plus proche de nous. Donc, on doit toujours dialoguer avec ceux qui sont proches de nous. Il y a beaucoup d'Heideggeriens aujourd'hui, de gens intelligents. Il y a beaucoup de thomistes qui disent « Entrons dans saint Thomas par Heidegger. » Alors, je dis non. Et c'est pour ça que je ferme la porte tout de suite pour vous montrer la position de Heidegger et montrer notre position, celle que je crois être celle d'Aristote et de saint Thomas. Je dis je crois parce que très peu le disent. Alors il faut quand même essayer de le découvrir. Pour Heidegger, ceci est égal à ce qu'il appelle les étangs. Les étangs. Et les étangs, je les mis pour dire je pense l'être. Il y a un abîme pour Heidegger entre ceci et je pense l'être. Autrement dit, et c'est ça l'important, autrement dit, pour Heidegger, l'être n'est pas saisi à partir de l'expérience externe. Ceci est. Ceci est n'est pas porteur de l'être, comme on dirait aujourd'hui. Ceci est, c'est les étangs. Et les étangs, c'est ce que regardent les sciences modernes. Les sciences modernes ne touche que les étangs, ne disent rien de l'être. L'être apparaît dans mon intelligence à partir de la négation des étangs. Oui, démarche dialectique. Les étangs sont affirmés par l'expérience. La négation totale, la néantisation des étangs me permet de faire apparaître, je pense l'être. Oui, démarche dialectique. Démarche dialectique à la manière de Heidegger. Hein. Parce que je pense l'être n'est pas la synthèse de la négation des étangs et des étangs. Thèse, antithèse, synthèse. Voilà la démarche dialectique. Pour Heidegger, le je pense l'être apparaît à partir de la néantisation de ce qui est des étangs. Vous voyez donc que je pense l'être apparaît à l'intérieur de ma cogitation. Je cogite l'être. L'être n'apparaît que dans la mesure où je ferme les yeux. Je n'ai plus aucun contact avec le monde extérieur et je pense. Je pense quoi ? L'être. Et c'est très poétique, c'est très Rilke. Quand tu veux avoir l'inspiration, entre chez toi et dans le silence, découvre ce que ton cœur te dit, ce que ton intelligence te dit. Et qu'est-ce que l'intelligence nous dit ? L'être, en premier lieu. Oui, il faut écouter la petite source intérieure, le murmure de la petite source intérieure. Murmure. L'être. L'être, c'est ce murmure. Oui, c'est très poétique. On penser ça poétiquement. Moi, j'aime bien de le penser poétiquement. C'est beau. Ferme les yeux dans le silence. Écoute ce que te dit la diligence. L'être. Et c'est vrai, Heidegger est un poète. C'est comme un peu Platon. C'est le Platon moderne. Heidegger refuse complètement Platon parce qu'il est très proche. C'est toujours un peu comme ça, vous savez. Mais au fond, c'est ça. Hein. Pour lui, le grand philosophe, c'est Parménide. Et c'est dans une révélation. Donc, dans la révélation intérieure, je commence à penser quand je pense l'être. Mon intelligence s'éveille quand je pense l'être. Donc, c'est bien ce petit murmure intérieur de cette source très intérieure qui est l'intelligence. Ça commence à jaillir. Alors, poétiquement, c'est beau. Je pense l'être. Bon. Mais voyez que dans cette position, je suis dans une attitude de repli complet sur mon intelligence. C'est un repli total de l'intelligence. Une immanence totale de l'intelligence. Au plus intime de ma réflexion, je découvre le jaillissement de l'être. Et c'est un jaillissement, puisque ça sort de mon intelligence. L'être jaillit de mon intelligence. Il y a, chez Heidegger, j'en suis sûr, du reste, il suffit de le lire un tout petit peu pour voir que juste avant qu'il dise ça, il y a la réminiscence de la création. Dieu crée à partir de rien. Il faut donc, à partir de rien, il faut donc le rien pour que l'être apparaisse. Le rien, c'est la négation absolue des étangs. C'est la néantisation des étangs. Ex nihilo, à partir de rien, Dieu crée. À partir de rien, je pense l'être. Je crée l'être. Voyez ? Je pense l'être. Je crée l'être. Et il jaillit de moi. C'est moi qui le crée. Il y a tout cela comme réminiscence platonicienne. Oui, alors il faut comprendre cela. Il ne faut pas le suivre. Vous comprenez qu'à partir de là, je ne peux plus rien dire d'autre. Et j'attends que Dieu se révèle. C'est l'attitude d'Heidegger. J'attends que Dieu se révèle. Je ne peux pas affirmer que Dieu existe. Je ne peux pas affirmer que Dieu n'existe pas. On a dit Heidegger est athée. Il nie l'existence de Dieu. Heidegger a dit non. Je n'ai jamais nié l'existence de Dieu. Mais j'affirme que mon intelligence ne peut pas le dire. Dieu, on ne le dit pas. Dieu se révèle à moi. C'est noble, c'est grand, mais c'est anti-philosophique. Heidegger est catholique. Mais Heidegger a subi énormément l'influence de Luther, du protestantisme. Mais il est mort dans l'église catholique. Il a été enterré dans son petit village. C'est très connu, c'est un drame. C'est l'influence du protestantisme qui a fait qu'il n'a pas pu continuer d'affirmer que l'intelligence humaine pouvait. Et alors il y a un repliement. C'est très curieux. Vous voyez, ce serait très intéressant d'étudier à partir de la position de Luther Hegel, Heidegger. C'est quand même deux grandes positions philosophiques. Deux positions géniales. L'une poétique, l'autre rationnelle. Mais c'est deux positions qui proviennent de Luther. Radicalement. Alors maintenant, nous allons nous essayer de comprendre. J'efface les étangs. J'efface l'intuition de Raïssa et j'essaie de me remettre. Puisque l'intuition de Raïssa, vous voyez, conduit aux 7 leçons de l'être. Mais si vous lisez les 7 leçons de l'être, vous voyez que de fait, c'est simplement une attitude critique sur l'idée d'être. L'intuition de l'être, c'est l'idée d'être. C'est pas l'être. C'est la richesse unique de l'idée d'être. L'idée d'être contient les transcendantaux, les 5 transcendantaux. Là, reste vrai, bien, aliquid. C'est dans les 5, c'est dans l'idée d'être que je découvre ça. Or, l'idée d'être ne me conduit pas et ne me permet pas de remonter jusqu'à Dieu. Maritain acceptera les voies d'accès de saint Thomas parce qu'il est thomiste. Mais il y a une contradiction interne dans Maritain. Les 7 leçons de l'être et les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas le suivre. Ma métaphysique ne commence pas par l'idée d'être, mais par la réalité existante. L'idée d'être, c'est la métaphysique de Suarez. La métaphysique de tous les grands jésuites espagnols qui sont suarésiens. Alors ça, c'est l'idée d'être. Suarez le dit textuellement dans les méditations métaphysiques. Il dit l'idée d'être est finie et infinie. Or, l'idée d'être, le concept d'être, l'idée d'être, le concept de l'être, ne peut pas être infini. Le concept d'être infini, c'est Dieu, vous comprenez ? Alors, j'ai pas de concept de Dieu. Je ne peux pas avoir de concept de Dieu. Je peux affirmer qu'il existe, mais je n'ai pas d'idée de Dieu. Avoir une idée de Dieu, ce serait contenir Dieu dans mon intelligence. Ce serait mesurer Dieu, ce qui est impossible. Donc, vous voyez bien, ces deux grands aspects les plus opposés serait furieux de ce que je dis là, mais je suis bien obligé de reconnaître Suarez, Maritain. Si vous voulez mettre en rage des maritanesques, vous leur dites ils sont en dépendance de Suarez. Et je le dis loyalement, sans doute. J'aime beaucoup Maritain. C'est un ami, de sorte que je n'ai rien contre lui. Je l'aime, mais j'aime plus la vérité que Maritain. Vous savez ce que dit Aristote, Platon, je l'aime, mais la vérité plus encore. Il ne faut jamais oublier ça. C'est notre grande devise. On cherche la vérité et on ne dépend pas de quelqu'un. Si j'aime saint Thomas, c'est qu'il me donne la vérité. Mais de temps en temps, je peux très bien dire, là, je ne suis pas d'accord. Philosophiquement, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas beaucoup de points où on peut dire ça. On peut dire là, saint Thomas n'a pas assez précisé vu ce que nous devons dire aujourd'hui. Parce que Suarez dépend de saint Thomas. Tu vois, il veut dépendre de saint Thomas. Et pour moi, saint Thomas, c'est le jugement d'existence. Suarez transforme le jugement d'existence en concept d'être. Maritain, dans l'idée d'être, avec les 5 transcendantaux qui sont dans l'idée d'être. Et le concept d'être de Suarez, il est fini et infini. Alors Heidegger a ce courage, et il faut faut le reconnaître. C'est-à-dire, la métaphysique ne commence pas par l'idée d'être. Il n'y a pas d'idée d'être. Là, il se trompe. Une des attaques les plus fortes de Heidegger, c'est de dire l'idée d'être n'existe pas. Donc, d'un seul trait, il renvoie promener Suarez, il renvoie promener Maritain, il renvoie promener tous les thomistes suarésiens. Et je crois que les scolastiques décadentes sont tous